Bonjour, soyez les bienvenus, c'est la bande originale avec Leïla Kadouboudadi.
Bonjour à tous.
Daniel Morin.
Bravo Daniel.
Albert Algou.
Bonjour.
Guillermo Guiz. Richard Lonac nous accompagne au clavier. Et Richard. Notre invité est Léa Salamé. Bonjour Léa.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
C'est sympa, hein, c'est plus chaleureux que la matinale.
Mais oui.
Voilà.
Ah, parce que plus, on a un public chaleureux qui applaudit.
Faut choisir sa tranche, Léa.
Elle l'a choisi, t'inquiète pas. Elle l'a choisi. On va parler.
Tenez, regardez, il y a une fiche de paye là, vous allez vraiment rire. Là, vous allez vraiment rire. Là, vous allez vous marrer. En plus, c'est celle d'un migrant, Guillermo, donc vous allez voir.
Alors, avant toute chose,
je
me dois évidemment de vous parler de ce qui se passe et de ce qui fait que la twittosphère ou la fachosphère s'enflamme en ce moment.
Oui, on part tous sur Europe.
Et,
voilà.
si vous n'y allez pas, tant mieux pour vous. C'est un ramassis de n'importe quoi. Donc je voulais simplement vous dire que au-delà du plaisir que j'ai d'accueillir Guillermo Guiz, et Guillermo pourra en témoigner, on l'avait appelé hier en disant bah écoute, ça serait peut-être bien que tu viennes pas demain parce que j'aurais voilà. Parce que normalement il est là tous les jeudis, Guillermo Guiz, voilà. Parce que j'aurais aimé vous annoncer la présence de Pierre-Emmanuel Barré à ce micro, à qui j'avais proposé après une discussion d'abord de potes, mais oui, voilà, c'est ça.
Vous êtes mis sur la gueule, quand même.
que nous n'avons pas le même point de vue sur l'importance de l'abstention. Bref, donc je lui ai proposé de venir faire sa chronique et de ne pas changer une seule ligne de sa chronique, celle qu'il avait faite hier, qui était prévue pour hier. Il a préféré la faire sur Internet. C'est son choix, que je respecte évidemment. Il est totalement libre. Donc juste un mot pour ses fans. Si vous voulez voir cette chronique, évidemment, elle est en lien sur le Facebook de l'émission. C'est la moindre des choses. Et juste un mot à Pierre-Emmanuel, puisque je sais qu'il va être dans la maison dans quelques minutes. Tu reviens à ce micro quand tu veux. Voilà, tu es le bienvenu et je t'embrasse. Maintenant qu'il est fait, désolé Léa pour cette introduction, mais comme on va parler de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et ce sujet, c'était quand même la moindre des choses d'être précis avec ça. Est-ce que, Maréchal, vous avez bien compris pourquoi Léa Salamé était notre invitée?
Affirmatif, mon cher Nagui. Non seulement je sais pourquoi nous recevons Madame Salamé, mais en plus je suis très heureux de l'accueillir. Bonjour Madame.
Bonjour.
Ce qui ne semblait pas être votre cas tout à l'heure, Nagui, puisque vous m'avez dit, oui, hors antenne, la Salamé. Ah, quelle mauvaise idée d'avoir invité une journaliste qui fait des audiences bien plus élevées que les miennes, qui sont pourtant très très hautes. Alors, je ne suis pas jaloux, mais il faudra voir à pas trop m'humilier. Et vous avez ajouté... En plus, il y en a une autre ici qui va lui faire risette pendant toute l'émission, ce qui m'arrange bien, c'est Leïla Kadour,
oui,
qui va se la jouer chère consoeur et patate et que je te mouille la compresse, etc. Et là,
compresse.
Nagui, je trouve que vous avez eu la dent encore plus dure que la dernière qui me reste, puisque vous avez ajouté... Depuis que Leïla présente le 20h sur France 2, le week-end, non seulement elle bâcle le semblant de boulot qu'elle faisait semblant de faire dans la bande originale, mais en plus, elle ne rêve plus que d'un truc, remplacer Pujadas tous les soirs de la semaine.
Ouais.
Ce qui n'est pas complètement faux.
Dis pas oui, Leïla.
Ouais, tu laisses, c'est drôle.
Laissez-moi dire la vérité. Laissez-moi parler.
C'est vrai, c'est vrai.
Pas de censure, ça suffit.
Liberté d'expression.
Ce qui n'est pas complètement faux, Nagui, puisque se confiant à moi tout à l'heure, Leïla éructait. Franchement, je vois pas ce qu'il lui trouve à ce nabo, avec ses costards de chez Tartine et Chocolat. Il est temps qu'il dégage. Voilà. Voilà. Grâce à ce préambule,
ça c'est fait.
Les choses sont claires et vous savez à qui vous avez affaire, Madame Salamé. Enfin, pour expliquer votre venue, nous parlerons, parce que d'habitude je fais le pitch de l'émission, nous parlerons des accusations formulées de plus en plus souvent par certains responsables politiques envers certains journalistes à qui ils reprochent d'en avoir dans le froc, comme vous, Madame Salamé. Ah, j'avoue que tout ça me rappelle le temps où moi aussi, je menais des interviews coup de poing. C'était en 1957, à Alger, à la Villa Les Roses. Ma mission, avec mon vieux copain Jean-Marie, interroger des personnalités politiques bien à fond. Ah, ils étaient peu bavards, mais finalement, avec l'aide de Jeugène, un autre ami, fallait voir comme les langues se déliaient. L'ambiance était électrique, mais même avec les plus coriaces, j'obtenais des infos. Ça, c'était de l'interview. Alors bien sûr, à l'époque, on nous a chié dans les bottes, sous prétexte que nous étions à la solde du pouvoir. Mais c'est grâce à cette expérience que j'ai pu, plus tard, me reconvertir dans le journalisme et décrocher mon CDI, signé par M. Galette, à France
Galet,
Inter.
On dit Galet.
En français, on prononce toute la lettre, surtout en ce moment. À présent, vous voilà face à Nagui, Madame Salamé, dans le rôle de l'intervieweuse interviewée. Et je vous souhaite une bonne émission.
La bonne
Merci.
sur France Inter.
C'est vrai que depuis 2014, vous menez Léa Salamé à 7h50 sur France Inter, dans la matinale de Patrick Cohen, l'interview qui est le rendez-vous phare, le plus important. Est-ce que vous vous souvenez du jour, de l'heure, de l'humeur dans laquelle vous étiez quand on vous appelait pour vous proposer de faire ça? Vous d'abord, étiez surprise qu'on vous le propose.
D'abord, on m'a fait passer un test. Hein. C'est pas, on vous le donne pas
c'est-à-dire
comme ça.
Bah, sérieux
oui.
Ouais.
C'est-à-dire,
quoi bah, oui, il y avait un casting.
Heureusement. Ah bah oui, parce que je vous signale que je venais d'une chaîne d'info. Ouais. Non, il y a pas eu de casting, mais il y a eu un test qu'ils m'ont fait passer parce que je n'avais pas fait de radio. J'avais jamais fait de radio jusque-là. Et Laurence Bloch a estimé qu'il fallait qu'on ne donne pas le 750 comme ça. Et elle a eu tout à fait raison. Elle hésitait entre me donner le 750, qui est un très très beau rendez-vous, et peut-être autre chose un peu moins exposée.
Et donc moi j'ai dit... minuit et demi, c'était un truc... l'entretien de minuit et demi. Avec tout le respect, je dois...
Ouais. 30 heures.
C'était un test. C'était, 30
heures,
c'était,
30 heures.
C'était une maquette, c'était donc, un pilote avec...
Bah oui, je suis venue à la Maison de la Radio il y a 3 ans, comme vous le dites.
D'accord.
Et on a demandé à 2 personnes de faire les cobayes, un homme politique que je devais interviewer.
Donc c'était pas un vrai, véritable homme politique, c'était...
Si, c'était un vrai homme politique.
Ah,
c'était Jérôme Guedj, le député de l'Essonne, à l'époque député de l'Essonne, socialiste, à qui j'avais dit, voilà, je passe un test, si tu peux venir, genre, juste faire l'homme politique.
D'accord, le cobaye.
Le cobaye. Et on avait demandé à Laurent Guimier, qui est le patron de France Info, de faire, c'est la première fois que je raconte ça, je sais pas pourquoi je raconte ça,
c'est
de
cool.
faire le cobaye pour au cas où je faisais autre chose. Et bon, mais moi je voulais le 7h50. Je voulais pas l'autre chose, je voulais pas le minuit et demi. Et donc voilà, sauf que Laurence Bloch et les patrons de la chaîne on le donne pas comme ça. Moi je sais pas, elle vient d'une chaîne d'info, est-ce qu'elle est capable de faire vraiment un rendez-vous de
l'exercice
radio,
de la radio étant
et
autre,
Patrick
autre
Cohen.
Chose, et surtout l'exercice de l'interview
limité dans le temps, cadré, etc. Est-ce que ça partait pas dans tous les sens? Patrick Cohen et Laurence Bloch ont écouté mes 2 essais et j'ai eu 7h50.
Voilà, parfait. Belle voilà. histoire, très
donc
belle
j'étais,
histoire.
J'étais flippée.
Et donc on a un scoop. Oui, ouais. Ben, j'imagine, flippée comme on l'est toujours quand on rêve de quelque chose et qu'on se dit ça se joue en
bien
quelques
sûr.
Minutes, en
bien
6
sûr.
Minutes, 7 minutes. C'est-à-dire, chronomètre en main, ça dure exactement
7 minutes 15, j'ai négocié.
C'est précis. Vous,
parce qu'ensuite j'ai négocié sur mon 4 heures. J'ai grappillé les minutes et à peu près un matin sur deux ou tous les matins, j'ai les yeux de Patrick Cohen qui me regarde en disant « Tu éclates ton temps ». Je fais « Oui, tous les matins
». 7 minutes 15, c'est précis. Mais en même temps, c'est l'interview référence, c'est-à-dire que c'est un
succès. Il y a aussi celle
succès.
De 8h20 de Patrick, d'ailleurs.
Oui, mais on en parle beaucoup, vous le savez, au-delà de l'élégance que l'on peut avoir pour Patrick ou pour tous ceux qui mènent d'ailleurs ce genre d'exercice. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans cet exercice? C'est justement d'avoir le temps limité, de tomber sur des hommes politiques ou des femmes politiques qui sont rompus à l'exercice et qui ont un message précis à faire passer, quitte à ne pas répondre aux questions que l'on pose.
Plus difficile, c'est d'avoir un style, je crois. Parce qu'au fond, tout le monde est capable de poser des questions. Tout le monde est capable...
Oh, si, les
tout
bonnes
le, tout, non, non, tous les, non. Tous les bons journalistes, enfin, tous les journalistes sont capables de poser des questions.
Écoutez,
de
Nagui, écoutez, apprenez un peu.
Non, la difficulté, c'est Nagui, la difficulté de l'interview, c'est de créer un moment. C'est qu'il ne fasse pas sa réponse, que ce ne soit pas la question banale, avec une réponse banale, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon obsession, c'est qu'il y ait un moment. Alors, parfois, j'y arrive, parfois, j'y arrive pas. Il y a des matins, ça se passe bien, des matins, c'est raté complètement. Mais c'est soit de provoquer, soit de le faire rire, soit de le faire sourire, soit de le déstabiliser. Mais en tout cas, c'est sur un fait, parce qu'au fond, les questions sont à peu près toujours les mêmes quand on fait de l'info et de l'actu, surtout en ce moment, où en gros, ce matin, j'avais Yannick Jadot, il fallait commencer par Whirlpool avec ce qui s'était passé la veille avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je veux dire. Et on va pas inventer l'actualité, mais c'est la manière de l'interroger.
Parce qu'il y a des questions... Pardon, vas-y Albert.
Vous pouvez tomber sur des gens banals, des personnalités banales.
Ça, donc, les jours fériés. Généralement, les jours fériés...
Y avoir des personnalités politiques qui ne t'inspirent pas non plus grand-chose. On se dit, en préparant l'interview, bon, alors, je vais... Parce qu'à chercher le style aussi, il ne faut pas quand même perdre de vue le contenu et là où on veut aussi, d'une certaine façon, l'emmener. Parce que l'idée, c'est de poser des questions, pas pour provoquer des réponses qu'on connaît déjà, mais quand même, aller
mais
vers un sens qu'on
vous
construit.
Avez raison, mais je pense que tout le monde est inspirant. Moi, je ne pense pas que... Je pense pas qu'il y a des... Bon, bien sûr, c'est plus facile d'avoir Jean-Marie Le Pen que d'avoir un 8e couteau, parce que Jean-Marie Le Pen est un hommage. Jean-Marie Le Pen, la fille qui dérape complètement.
Rappelez
Pierre-Emmanuel Barré.
On le rappelle. Non, c'est un bon client, c'est ça. C'est rondi,
il y a mille choses à lui demander. Je veux dire, il n'y a pas besoin de... C'est plus excitant, effectivement, de faire des grandes gueules. Ou en début de semaine, j'ai réussi à avoir Manuel Valls en exclusivité, qui n'avait pas parlé après sur les résultats du premier tour. Effectivement, ce sont des challenges, parce que les hommes ont des choses à dire sur le contenu, sur la personnalité.
Comment on parvient à convaincre Manuel Valls de venir en exclu au lendemain de ce premier tour?
On
utilise ses réseaux perso, les réseaux du Renac.
Moi, vous savez, j'ai pas beaucoup de réseaux.
Ouais. Léa, non?
Mais non, j'ai pas beaucoup de réseaux parce que d'abord... J'appelle Nagui et je lui dis, moi, meilleur. Non, j'ai pas beaucoup de réseaux parce que j'ai pas fait beaucoup, j'ai pas été journaliste de terrain qui suit à proximité de tous ces gens-là. Ce qui m'a bien arrangé parce que du coup, j'ai pas du tout de proximité avec les hommes politiques. Du tout. Moi, je suis pas favorable au déjeuner avec les hommes politiques. Je l'ai fait.
Vous avez déjeuné avec François Hollande?
J'ai déjeuné avec François Hollande et toute la matinale de France Inter et Laurence Bloch, une fois à l'Élysée, voilà. Comme il reçoit toutes les rédactions, mais c'est dans ce cadre très formel du président de la République. Mais sinon, moi, je pense que je l'ai dû le faire une ou deux ou trois fois, mais vraiment pas plus dans toute ma carrière.
Vous
avez terminé à 10 déjeuners.
Parce que derrière, ça
qu'est-ce que j'ai accepté cette...
Parce qu'après, ça rend le travail
plus
difficile.
Oui, ça rend bien sûr, ça rend le travail
plus compliqué.
Il faut pas
pactiser avec celui qu'on interviewe.
Il faut pas les connaître trop. C'est trop problématique.
Alors justement, qu'est-ce qu'il y a de plus facile pour vous? Une bonne interview se passe plus facilement, elle est plus confortable avec quelqu'un avec qui vous êtes soit en conflit, soit en tension, on va dire, parce qu'on sent que des fois qu'il y a des interviews qui sont plus électriques que d'autres. Alors, est-ce que l'empathie nuit à la bonne interview?
Non.
Non?
Non, mais je ne suis pas en conflit. Moi, j'ai pas de...
Je parle pas que de politique, même à l'époque, lorsque vous étiez...
Chez Ruquier,
ou même dans Stupéfiant, lorsque vous abordez des sujets artistiques totalement différents. Le dernier que j'ai vu était sur Picasso, et il y avait des histoires absolument incroyables. Vous alliez sur le terrain, vous rencontriez des héritiers de la famille, vous visitiez. J'imagine que lorsque l'on arrive, pour sortir justement de la politique, on arrive dans un hôtel particulier d'une descendante Picasso, on peut se dire... la chance, elle a, rien fait, elle a tout, elle a des milliards, elle a une vue incroyable sur Cannes. Enfin, on peut se faire en tout cas une espèce de préjugé, mais qui est tristement humain, on va dire.
Oui, on a tous des préjugés. Il y a des gens qu'on prend plus plaisir, qu'on a plus envie de découvrir, qui nous inspirent plus. Bon, moi, c'est vrai que quand je suis allée interviewer pour la première fois Gérard Depardieu, c'est qui me bouleverse.
C'était pour la première,
malgré tout.
C'était pour la première de Stupéfiant.
Non, la première de Stupéfiant, c'était Delon.
Ah oui, pardon.
Depardieu, je l'ai pas fait dans Stupéfiant, je vais dire, c'est pas grave. Mais, Depardieu, c'était pour France Inter, c'était pour un matin, et évidemment, quelqu'un qui vous inspire, qui vous touche, parce que c'est un immense acteur, parce que c'est un mec d'une sensibilité folle, c'est un mec qui d'une liberté folle aussi, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur Depardieu, je ne vais pas vous faire un plaidoyer pro Depardieu sur cette déclaration politique, mais moi, ce type me touche énormément. Bah, bien sûr que je suis... pour les artistes, l'empathie est essentielle, même, je dirais. C'est pas à vous que je vais dire
et
ça.
Et pour les hommes politiques?
Pour les hommes politiques, non. Il n'y a ni empathie, ni conflit chez moi.
Ah, c'est dommage.
Mais alors, comment? Alors, voilà, vous avez évidemment... vous êtes une citoyenne, vous avez votre conscience, et ça c'est votre vie privée, votre intimité, votre décision dans l'isoloir. Comment ensuite pouvoir interviewer, parler à tout le monde et rester hermétique et objective?
C'est le grand challenge qu'on a tous, hein. C'est un grand débat. Vous avez certaines journalistes, par exemple Natacha Polony est quelqu'un qui dit il n'y a pas de journalisme objectif, on est tous subjectifs.
Donc elle choisit de dire ce qu'elle pense.
Elle choisit de dire ce qu'elle pense.
Ça, c'est un travail d'éditorialiste plus.
Oui, mais elle pense que même les intervieweurs ont une pensée politique, ont un avis et essaient de vous...
Mais tout le monde, nous, tes spectateurs,
oui,
auditeurs,
nous
on le pense.
Je pense que le principe même de l'interview, moi j'essaye franchement, alors peut-être que je rate, peut-être que vous savez pour qui je vote, mais je crois pas, parce que j'ai autant de gens, si vous voulez, qui me traitent de gauchiste que de sarkozyste, que de... Non mais c'est vrai, c'est très compliqué de savoir, je crois pas que vous savez... Je pense pas. Mais
en tout cas pour le premier tour, j'ai aucune idée.
Dans le choix des mots, Léa, à partir du moment où on choisit des mots pour poser une question... le lexique fait sens, le lexique est une forme d'orientation politique.
C'est vrai, mais
on
vous appartient
dans
d'être
une
pareil.
Subjectivité absolue. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense que vous faites ça au plus près de cette frontière, mais quand même, être journaliste, c'est quand même une forme de subjectivité. La première question que vous décidez de poser à votre interviewé le matin à 7h50, elle n'est pas anodine.
Non.
Donc, elle fait quand même sens. Alors, On peut essayer de reconstituer derrière le puzzle pour savoir, et à la limite, moi ça m'intéresse pas trop de savoir pour qui vous votez,
je pense
parce que
tout le monde s'en
ça,
fout.
Ça
n'a
pas plus d'intérêt de savoir pour qui je vote.
Non, mais enfin, voilà. Aussi.
L'idée c'est pas ça, mais on peut pas dire que c'est totalement objectif.
Non, non, c'est pas totalement objectif, mais c'est une lutte quotidienne pour ne pas
d'exigence
essayer
et de rigueur.
Que vous, si vous essayez de décrypter et de remonter à la source, d'essayer de voir, ben, que vous soyez perdu.
Oui, bien sûr, mon objectif est
de vous perdre, Charles Leila.
Ce qui est intéressant, c'est ce qui en ressort. Ce qui est intéressant, c'est ce qui en ressort. Et évidemment, le but ultime, c'est d'obtenir une réponse qui n'a jamais été faite auparavant.
Voilà. Le but ultime, c'est d'obtenir un moment plus qu'une réponse.
Ouais,
c'est d'obtenir un truc, quelque chose.
Et d'où l'intérêt capital de la première question.
Voilà.
Et ça, c'est un peu le résumé des forces, j'imagine.
Mais c'est pas l'émotion qui prime sur l'info à ce moment-là, sur l'information.
Que le moment soit le moment d'émotion, tu veux dire.
Bah oui, c'est ça qui me gêne un peu, moi.
C'est pas artificiellement.
C'est ce que t'as dit.
Le risque, c'est de créer un moment artificiel. Oui, t'as raison. Ça peut être un risque, effectivement, d'essayer de pousser juste pour avoir un moment au mépris du contenu. Mais l'objectif, c'est d'avoir les deux. D'avoir une réponse, effectivement, d'avoir du contenu. Qu'est-ce que je dis, là?
Non, mais on suit notre fil.
Puisqu'on parle de moment, un moment que vous avez vécu pour la première fois de votre vie, c'était la soirée électorale du premier tour.
Oui.
Ça doit être quelque chose de dingue. J'envoyais texto à Leïla en disant...
Mais parce que sa soirée, m'envoyait des textos, c'est dingue.
Non, mais parce que
c'était aussi sa première, Leïla.
Ce que je lui disais, c'est un moment historique que vous êtes en train de vivre. Quel que soit le résultat, quel que soit ce qui se passe, c'est l'histoire de notre pays qui est en jeu, c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Donc c'est un moment, est-ce qu'on sent ce poids-là?
Oui.
Est-ce qu'on sent cette électricité?
Oui, complètement.
Cette responsabilité.
Et
cette
responsabilité, ce que j'allais vous dire. C'est le mot responsabilité. C'est-à-dire que c'est. D'abord, c'est quelque chose qui vous oblige. Là, pour le coup, vous avez encore moins le droit à la maladresse, à l'imprécision. En plus, il y a tout ce jeu avant 20h où vous avez les premières tendances, même si sur cette élection-là, on a très peu eu de tendances.
Oui.
Parce que Brice Teinturier et les sondeurs commencent vraiment à être
échaudés.
Donc on essayait de lui arracher quelque chose à Brice Teinturier et il restait comme un sioux. Si j'ai rien à vous dire.
Oui, mais nos amis belges.
Oui, nos amis belges avaient donné. Mais ils auraient pu
on
se tromper.
On pouvait tout suivre le résultat.
Ouais, non, c'était un peu plus tard. Ouais, c'était plus tard que d'habitude en tout cas. Avant, c'était aux alentours de 17h, 18h qu'on avait des résultats. Là, c'est arrivé
vers 19h. Mais il y avait quand même deux grandes tendances.
Le fameux hashtag Radio Londres a beaucoup moins fonctionné cette fois, d'autant que les différents instituts n'avaient pas du tout la même température sortie des urnes. Ça dépendait aussi de ce qu'ils avaient pris comme choisi, entre guillemets, comme ville, comme région.
J'en profite pour dire que France 2 a eu bon, que TF1 s'est trompé.
Ouais.
TF1 s'est trompé. On ne l'a pas assez dit.
Quand
France 2 se trompe, on le dit beaucoup. Ouais, quand TF1 se trompe, ça passe...
Et puis, c'est pas une petite erreur, en plus.
Ouais.
Donc,
ils se sont vraiment trompés.
Ils avaient annoncé Poutou, quand même, en tête.
Et la salle en deux.
Ils ont annoncé la salle au premier tour.
C'était un truc de l'hyperespace.
Là, quand on est entre les deux tours, il y a aussi dans la programmation de vos invités le matin un choix d'équilibre.
Oui,
est-ce que donc c'est un choix qui devient binaire parce que c'est la règle dans notre pays?
Bah oui, c'est la règle du CSA, c'est-à-dire que si vous faites du Front National, il faut inviter des pros Macron, il faut calculer. Ça, c'est malheureusement pas l'air faire ces règles. Enfin, je dis malheureusement et heureusement aussi parce que sinon il y aurait pas la parole pour tout le monde.
Est-ce que donc il faudrait inviter des abstentionnistes puisque tout le sujet est là?
Non,
mais évidemment.
Premier parti de France.
Évidemment.
Ben oui, il faut inviter tout le monde. C'est-à-dire, vous parlez des abstentionnistes, c'est-à-dire en gros ceux qui suivent la ligne Mélenchon, par exemple. Ceux qui disent qu'ils ont la parole.
Ou ceux qui dès le premier tour n'ont pas voté et qui veulent poursuivre ce mouvement-là.
Ceci dit, oui, on peut être abstentionniste sans être mélenchoniste.
Absolument,
aussi.
C'est pour ça que je dis les abstentionnistes.
On peut
sortir d'une couleur politique.
Ceci dit, dans beaucoup de reportages, j'ai entendu des gens qui disaient qu'ils n'allaient pas voter, qui sont sur plusieurs chaînes de télé.
Absolument, ouais.
On leur donne la parole aussi. Hein, faut pas...
Non, mais la question là, c'est quand tu choisis un invité par jour,
un invité, oui,
lequel peut l'incarner là maintenant.
Attends, c'est bizarre d'interviewer quelqu'un en disant dites-moi ce que vous n'allez pas faire.
Non, mais si Jean-Luc Mélenchon a envie de venir sur la matinale de France Inter, bon, pour l'instant, il n'a pas trop envie de parler. Et encore moins de la matinale d'Inter. Oui, enfin, vous savez que nous avons notre petit contentieux avec Jean-Luc Mélenchon, mais il est le bienvenu pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'il refuse de donner sa consigne de vote.
Surtout après ce qu'il avait dit en 2002 aussi, puisque tout ce discours est ressorti aussi sur Internet. Et quand on prend mot à mot ce qui a été dit...
C'est une vraie question.
C'est incroyable.
Après, c'est sa liberté. Moi, je trouve que... Voilà, je pense que c'est sa liberté aussi. Mais...
Oui, on n'est pas obligé nécessairement.
Mais tout à l'heure, vous parliez de responsabilité.
Oui, mais cette notion de responsabilité, est-ce que aussi on peut pas s'attendre à ce que les électeurs fassent ce dont ils ont envie, sans pour autant que le chef de file d'un parti leur donne une consigne? Est-ce qu'on a besoin d'une consigne pour prendre ses responsabilités à titre individuel? Est-ce que
il a entièrement sa liberté, Jean-Luc Mélenchon? Voilà. Après, c'est un homme qui est dans la vie politique depuis 40 ans, qui a des combats. Depuis 40 ans, et c'est étonnant qu'au moment où Marine Le Pen fait son score le plus important, historiquement le plus important, c'est le moment qu'il choisit pour se taire, alors même qu'il a fait un score magnifique, quasiment 20%. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de l'entendre, et ce silence peut interroger quand même.
Léa Salamé est notre invitée. Nous allons parler tout à l'heure de l'ouvrage, du livre, le recueil de photos de Yann Arthus-Bertrand pour la liberté de la presse. C'est Christophe Deloire qui sera notre invité pour parler de cette liberté de la presse aussi, parce que dans le classement monde, on n'est pas top. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord voici l'humeur de Guillermo Guiz.
Non, sans blague.
Mais si,
absolument.
Mais
bonsoir. Si. Mais oui, bonjour les amis. Je le savais.
Mais oui.
Et arrêtez de faire comme ça.
Alors, arrêtez comme si je savais.
Oui.
Oui.
Ah, absolument.
Vas-y.
Alors, on est à 4
t'as
jours.
T'as l'air gêné, là.
Non, pas du tout. On est 4 jours après les demi-finales des championnats de France de présidence. Et l'heure est grave, y compris pour les blaguistes professionnels de l'émission. Alors, en ce qui me concerne, je vais vous faire ma chronique en entier. Par contre, ici, moi, je suis pas vraiment sujet à la censure. Honnêtement, pas par choix, mais juste pour d'évidentes raisons de tout le monde s'en branle, ce que je raconte. J'ai regardé les chiffres d'audience de mes billets. Il y a des articles sur les batraciens qui font plus de vues. Sérieux, Salamandre, une révolution ovipare, 120 partages sur Facebook, ma meilleure chronique, 11. Donc à la base, moi, j'avais envoyé un texte hyper dur, sans concession et tout sur les élections, mais quand notre rédacteur en chef, Jean-Baptiste Bussière, a dit à Nagui, on a un problème là, qu'est-ce qu'on fait avec la chronique de Guillermo Guiz? Nagui a répondu, hein, qui ça? On n'a pas tous le même impact toi, dans ces missions. Ça fait deux fois que je croise Nagui dans les couloirs et qu'il me demande si je me sens toujours bien sur France Culture. Et quand je le recroise autour de cette table.
Ça fait deux fois que tu me croises et tu me dis bonjour toi.
Il me dit, mais enfin, il me dit, je viens de vous voir dans un couloir, vous, que vous faites ici? Ça commence à devenir vexant, cette histoire. Du coup, bon, comme de toute façon, cette chronique va s'autodétruire dans. Maintenant, je vais m'en tenir à cette consigne de vote, voter en pensant à nos enfants. Voilà, enfin surtout aux vôtres, pour être honnête, les miens sont encore rangés dans mon système reproductif. C'est dommage, hein, ceci dit, parce qu'en Belgique, là on a justement tous un avis sur la question. Il y a 2 millions de Belges qui ont regardé vos élections. Je crois qu'il faudrait que le roi fasse une pure sextape avec le père Albert pour avoir autant de Belges devant leur télé. Bon, franchement, chez nous, c'est exceptionnel. D'habitude, vos présidentielles, on regarde ça d'un œil distrait en se disant « Ah non, pas Sarko quand même !» Mais plus quand tu regardes le film du dimanche soir et que t'as envie que le méchant meure à la fin, quoi. Ça va pas plus loin que ça. Ici, votre élection, t'as l'impression que c'est un match de Coupe du Monde et que tous les Belges sont devant le stade, comme des crevards, sans ticket, comme ça, à essayer de choper les miettes, en fait, vraiment. Je trouve que pour la peine, on mériterait tous d'avoir un quart de voix, comme Vincent Delerme. J'ai balé Vincent Delerme sur France Inter, mais j'ai franchi une ligne rouge. Je suis giclé.
Un coup de censure,
mais... Ah ouais, là, franchement...
Vous le comprendre. Chez nous, en Belgique, c'est une particratie de consensus, c'est-à-dire que nos élections principales, bah, tu votes, et le soir, on te dit quel parti est en tête, et puis les négociations commencent. Et genre, 8 mois plus tard, on te sort au JT. Tiens, en fait, on a oublié de vous dire, mais le Premier ministre, c'est un tel... Ça pourrait être ton fromager ou ton prof de sport, ce serait pareil. Entre-temps, t'as complètement oublié pour qui t'as voté, si t'es de gauche ou si t'es de droite, t'es passé à autre chose. Mais en France, le storytelling, il déglingue. Tu votes le dimanche midi, et à 20h au JT, t'as les têtes des deux finalistes qui apparaissent sur ton écran après un décompte. Et limite, quand t'arrives à zéro, t'as envie de crier « Bonne année !» Puis quand tu vois les deux têtes en question, t'as fait « Non, putain, c'est quand même long, 12 mois. Franchement, c'est serpentin tout de suite. » En plus, pour le vivre un peu de l'intérieur, pour la première fois, je sens cette gravité, quoi, cette atmosphère pesante. Je veux dire, avant de rentrer en Belgique la semaine dernière, j'ai dit « Allez, bon vote à mes potes français !» J'avais l'impression d'avoir dit « Allez, bon Aïd à mes potes moutons !» Grosse pression. C'est vrai, ceci dit, je comprends. Plus rien ne semble impossible dans ce monde. Moi, tu me dirais « Dans 3 mois, il y a une guerre nucléaire et tout, je suis prêt à te croire. » Tu me dirais, tu verras, dans 6 mois, Nagui va respecter un stagiaire. Daniel Morin va débarquer propre dans l'émission. Je me dirais « Ok, bah, il y a eu le Brexit, Trump, le PSG, tout est possible dans ce monde. On n'est pas à l'abri d'un peu d'éducation chez les plus rustres d'entre nous. » Et c'est pour ça que l'ambiance est plombée. Même les salles de spectacle, figurez-vous, sont moins remplies que d'habitude. Quoi. C'est vrai, hier j'ai eu moins de monde, alors que d'habitude c'est plein. Et autour de cette table, vous êtes bien placés pour ne pas le savoir, puisque vous n'êtes jamais venus.
Mercredi 21h15.
Alors vite qu'on passe au Golden Boy de la finance pour que vous puissiez tous faire comme d'habitude, râler 5 ans contre votre président, laisser les Belges à leurs affaires et nous ramener dans cette émission les meilleurs d'entre nous. Allez, bonne journée.
Exact. Merci.
La bande originale. C'est vrai, faut le dire, c'est tous les mercredis 21h15. Et c'est où, Guillermo?
Au point virgule, merci Léa, ça me touche que vous faites. C'est important pour la suite de ma
carrière. On va peut-être vous laisser tous les deux.
Non, j'ai toujours fait pour tous nos camarades humoristes.
Pas de raison, on peut le faire pour les Belges.
C'est vrai.
Mais non, surtout pour Guillermo.
Vos oreilles ont sifflé quand on vous annonçait la venue de Léa Salamé dans cette émission, ma chère.
Et oui, quand je pense à vous, Léa, je pense notamment à lui, Marcel, le grand Marcel.
Ils ont un peu la même voix. Ouais.
Marcel Khalife, le grand Marcel, qui est aussi le père de Bachar Khalife, qu'on connaît aussi bien.
Petit Marcel, lui.
C'est un des plus grands artistes libanais, enfin en tout cas dans cette liste-là, s'il fallait en dresser une, on ne peut pas passer à côté du grand Marcel, de son orchestre et de ces moments de liesse qu'il génère. Allez voir sur internet, c'est des moments vraiment fabuleux. Enfin, moi, je suis amoureuse du grand Marcel. Et puis, pourquoi vous parlez de lui? Pour vous parler du Liban. Un pays, moi, que j'aime aussi beaucoup.
Vous connaissez? Vous êtes déjà allé?
J'y suis allée récemment et c'est une petite histoire d'amour avec ce pays qui commence. Je crois que c'est, je mets au défi quiconque d'aller au Liban.
Récemment, c'est carrément là, c'est il y a 10 jours.
C'était il y a 3 semaines.
Ouais, c'est ça. Ouais, non,
oui, c'est récent. Ouais.
C'est très, très récent.
Coup de foudre.
Un vrai coup de foudre. Qu'est-ce qui vous reste du Liban, Léa, dans votre façon d'être, dans votre caractère, dans vos habitudes?
L'excès parfois, l'envie, le fait que je déborde un peu parfois, le trop ou le pas assez, la chaleur humaine, la sensibilité. Et puis il me reste des odeurs, enfin il me reste, je parle comme si j'y vais jamais alors que j'y vais au moins une fois par an, les odeurs,
les couleurs, les lumières.
Les couleurs, la musique que vous avez passée, les gens, ce peuple qui est toujours sur un fil en fait, c'est un peuple sur un fil, c'est un pays sur un fil, parce que de par sa situation géopolitique, il est toujours en guerre ou en presque guerre ou en semi-paix, mais c'est toujours compliqué.
Entre Israël, la Syrie, toutes ces communautés qui cohabitent, moi ce qui m'a vraiment touchée c'est ça, c'est de voir les maronites, les druzes, les chiites, les sunnites.
Rendez-vous compte que sur un pays qui fait la taille de 2 départements français, vous avez 17 communautés religieuses qui cohabitent. Donc déjà nous on n'y arrive pas en France, donc imaginez sur un confetti comment ils s'y prennent.
Eux ils y arrivent.
Non, il y a des guerres quand même.
Mais la guerre civile qui a duré 17 ans entre 17 factions.
Mais bonhomme mal an, ils y arrivent. Et peut-être je dirais même mieux, malgré les guerres, parce que parfois effectivement il y a des guerres qui durent parfois 17 ans. Qui a été terrible, la guerre civile du Liban, qui a duré de 75 à 90 à peu près. Mais malgré tout, il y a quelque chose. Oui, ça me fait plaisir que vous ayez aimé. Et comme vous dites, c'est difficile de pas aimer ce pays-là avec tous ses défauts aussi, avec tous ses excès aussi. Mais c'est un pays. Je trouve que c'est un pays qui a beaucoup de charme. Et c'est un peuple qui a beaucoup de charme. C'est un peuple qui se bat. C'est un peuple de. On dit souvent le Libanais, c'est pas une nationalité, c'est un métier. Mm-hmm. Parfois,
Attention, il y a Guillermo qui se dessape.
Voilà. Du coup,
la voix de Léa est magique.
Il y a une langueur, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de charmant. Il y a un charme au Liban. Il y a quelque chose qui vous prend. Voilà. Et j'espère que j'ai tout ça qu'ils m'ont donné. Et puis vous me demandiez tout à l'heure ce que ça me faisait d'être sur la soirée électorale française. Ben vous voyez, ça fait un peu tarte à la crème ce que je vais dire, mais j'avais pas du tout prévu de le dire. Mais à un moment, à 20h, quand on a donné les résultats et tout ça, j'ai eu un quart de seconde où je me suis dit, putain, tu te rends compte, t'es né il y a 37 ans dans un pays, t'es né ailleurs, t'es né dans un autre pays, au Liban. Tes deux parents viennent d'ailleurs, t'as débarqué en France pour fuir la guerre civile à 5-6 ans. Et 30 ans après, tu présentes la soirée électorale française. Et c'était une immense fierté pour moi. C'est quelque chose qui m'a un peu bouleversée.
Vous avez totalement
raison.
Qu'est-ce
que je fous là? Et en même temps, j'étais fière.
Mais vous devez, et on doit tous le prendre aussi comme un exemple, et comme une leçon. Sauf que lorsque vous tombez face à un homme ou une femme politique qui tient un discours sur, justement, les migrants qui fuient la guerre et en disant c'est pas possible et on ne peut pas les accueillir dans ce pays, vous ne pouvez pas ne pas prendre ça comme quelque chose qui vous touche directement, comme je peux le prendre moi aussi comme quelque chose qui me touche directement, parce que on sait d'où on vient, on sait par où on est passé, ce que l'on doit aussi à ce pays formidable qu'est la France.
Moi, je dois énormément à la France, et on sait d'où on vient, moi je sais d'où je viens, j'ai jamais oublié. Après, je vois où vous voulez m'emmener, je n'irai pas.
Mais, je parle de sensibilité en tout cas.
Mais d'autant, la geek, c'est pas forcément si simple que ça, parce que dans les l'électorat du Front National, si on doit évoquer les partis clairement, ouais. Il y a tout un tas de personnes qui ne sont pas nées en France, qui Absolument. Ont obtenu leurs papiers sur le tard. Donc en fait, c'est difficile d'établir un clivage comme ça en fonction
y a des immigrés qui votent pour le Front National, absolument.
Et du lieu où on a envie de rester, en fait.
C'est, et je vous dirais même que les Français ou les Franco-Libanais, par exemple, quand on voit les chiffres, Fillon est en tête et Marine Le Pen fait un très bon score au Liban. Donc vous voyez, c'est pas un...
Elle s'y est rendue d'ailleurs il n'y a pas longtemps.
Elle s'y est rendue il n'y a pas longtemps. Mmh. C'est pas aussi, elle a raison, Leïla, c'est pas aussi clivé que ça. Mais j'espère que vous entendez dans ma voix, sans que j'ai besoin de dire les choses, que effectivement, vous avez été migrant ou moi j'ai été migrant à un moment et voilà, on est fiers de ce que la France nous a donné aussi.
D'être un dimanche soir à la télé à 20h, voilà. Je partage. Merci d'avoir évoqué comme ça le charme du Moyen-Orient, ce qui moi m'a beaucoup touché. Un petit dernier son, quand je pense à vous, je pense aussi à un micro-événement qui vous a fait gagner rapidement en notoriété.
Ah non.
Mais si, allez. Ah.
Pascal Pro.
Il est cher François, 20h19, à 20h30, tous les soirs désormais. Si vous avez manqué le 20h, c'est le grand rendez-vous de Léa Salamé avec les infos. Bonsoir Léa. Évidemment, la Syrie, une nouvelle fois ce soir, à la une de l'actualité.
J'ai fait péter le décolleté.
Oh, je crois qu'on vous entend, chère Léa, et que vous allez pouvoir nous donner des informations sur ce que nous verrons.
Alors, voilà, cet épisode, on était, c'était voilà, à ITL.
C'est ça qui me reste de mon côté libanais.
C'est ça. Et alors, en fait, justement, je voulais y venir parce que moi, pour vous avoir croisé comme ça dans les couloirs d'ITL, quand j'ai entendu ce son-là, j'ai pas du tout été étonnée parce que vous avez
Mais oui,
en dehors de l'antenne, vous avez un vrai naturel, quelque chose de complètement décomplexé, pas du tout rangé dans ce qu'on pourrait attendre du journaliste qui doit incarner une forme de rigueur et d'exigence au quotidien.
Il n'y a pas de posture, ouais, c'est clair.
Et donc, je me disais que finalement, est-ce que c'est pas une belle chose que d'avoir gagné en notoriété par un aspect qui vous correspond totalement. C'est-à-dire que vous auriez pu tout d'un coup susciter je ne sais combien de papiers sur une interview et ça aurait été légitime parce que ça incarne votre pensée et votre façon d'être totalement pugnace lors des débats. Mais en même temps,
un clash ou une rumeur ou n'importe quoi de.
Mais en même temps, là, je trouve que quelque part, c'est quelque part quelque chose de vous, de très moyen-oriental, qui est là et qui vous fait connaître. Et moi, je trouve ça vraiment joli. C'est pour ça que je me disais, autant en parler.
J'apprécie beaucoup votre manière de tourner cette chose-là atroce en positive. Je trouve que c'est pathétique.
Mais Léa, dit qu'elle vous mouillera la compresse.
J'entends totalement. Sur ce qui est
du Moyen-Orient, c'est vrai que j'ai toujours eu cette manière de parler. D'ailleurs, je pense que ça se voit à l'antenne. Bon, moins en soirée électorale, un peu guindée, mais je revendique ce naturel et cette manière un peu décomplexée d'être et de parler. Après, honnêtement... Pas dormi de ce truc-là.
Pascal Pro, impeccable.
Il était parfait. C'était sur la Syrie. Il me lance sur la Syrie, sur la guerre en Syrie. Imagine, j'ai fait péter mon décalté. C'est indéfendable.
Je suis pas en train de le défendre.
Oui.
Mais bon, c'était quand même un épisode que les téléspectateurs ont en tête.
Moi aussi.
Léa Salamé est notre invitée. Le prochain stupéfiant.
Le prochain stupéfiant, c'est lundi soir, c'est tous les lundis à 23h sur France 2.
C'est le sujet.
Et le sujet, c'est... Donc c'est là où je suis tellement fatiguée. Vous savez, cette semaine, j'enchaîne tellement les choses.
J'imagine, y compris les tournages des prochains stupéfiants.
C'est un sujet formidable sur le programme culturel des deux candidats, de Macron et Marine Le Pen. C'est une grosse enquête qu'on est en train de faire parce qu'évidemment encore cette année on n'a pas parlé de culture, c'est une tarte à la crème ce que je dis, on a parlé de culture, donc qu'est-ce qu'ils proposent les uns et les autres, à la fois Marine Le Pen et
le travail
et
que Sonia De Villers a fait sur Inter en demandant aux candidats leur programme pour l'audiovisuel.
Et on n'a pas eu véritablement, donc c'est le gros sujet de lundi soir. Parfait. C'est on a fait ce qui aidera aussi les gens à choisir et à se déterminer pour leur vote de dimanche prochain sur les propositions sur la culture. Moi je fais un entretien de Nathalie Riquel, la fille de Sonia Riquel, qui sort un livre sur sa mère, sur les relations compliquées entre la mère et la fille. Et je dis ça sous le regard de ma mère, parce que je l'ai emmenée avec moi dans le studio aujourd'hui pour qu'elle vienne vous rencontrer, Maggie.
Mais je suis ravie, en tout cas. Et elle était morte de rire sur le décolleté. Ça l'a beaucoup fait rire.
Elle a l'air de naturel, très souriant.
Exactement. Nous allons évoquer quelques dates clés et les mettre en musique pour savoir aussi connaître vos goûts musicaux. Vous écoutiez, par exemple, en 2001. Peut-être
Attention, la prochaine fois, je vous invite à n'oublier pas les paroles, hein, si vous commencez à chanter. Hein. Velvet, le Velvet, Underground Perfect Day, Lou Reed, évidemment. Nous évoquons en 2001, le 11 septembre, vous êtes à ce moment-là étudiante à Sciences Po. Vous venez d'arriver pour un stage de 6 mois.
Pour un échange universitaire avec NYU, avec New York University. Voilà.
Vous avez fait la fête le 10 septembre au soir, donc vous vous réveillez peut-être un peu tard, il fait beau.
Pas un peu tard, il est 8h30 du matin quand je suis
réveillée. Ah, trop tôt alors. Non, parce que
on parlera Ben Laden.
Les attentats étaient...
À New York, c'était à 9h du matin.
Oui, mais donc ici à 15h.
Oui, moi je me réveille à l'heure new-yorkaise.
D'accord. Et là, vous découvrez la ville.
Et là, je découvre la ville. Ça fait 15 jours que je suis arrivée à New York pour un échange universitaire de 8 mois avec Sciences Po. J'habite à 5 blocs du World Trade Center. Il est 8h45. J'entends un énorme boom. Je pense que c'est un accident de camion en bas de la tour où j'habitais.
Gros camion, hein.
Gros camion. Mais je m'inquiète pas plus que ça. Et puis j'ai une mama black, comme les ricains de Brooklyn sont parfois, qui me tambourine à la porte 5 minutes après, qui me fait « You go down now ouais. !» Et je dis what's the problem? Et elle me dit « Il y a un incendie au World Trade Center. » Mais à ce moment-là, on ne comprend rien de ce qui se passe. Je descends. Alors là, je venais de me réveiller, donc je sortais du lit. Je mets un short et des claquettes, c'était l'été. Je descends en bas et tous les gens descendaient des immeubles. Et on regarde et on attend que les pompiers viennent régler le problème de l'incendie au World Trade Center. Et ça dure 5-10 minutes. J'ai le temps d'aller m'acheter un croissant. D'ailleurs, je mange le croissant en regardant l'immeuble fumé.
Les flammes, ouais.
Et on ne comprend rien. Et puis, à mesure que les gens descendent, vous savez, les Américains ont des petites radios. Tout le temps, ils écoutent la radio comme ça. Et on entend « there's a bomb in the Pentagon ». Il y a une bombe au Pentagone. Et puis ensuite, on comprend que ce n'est pas un incendie, c'est peut-être une bombe au World Trade Center. Mais tout ça, c'est dans un temps qui me semble totalement élastique. Et je suis en bas, je bouffe mon truc, etc.
Et là, c'était, pardon, le premier avion.
Je ne sais pas ce que c'était. C'était soit le premier, le deuxième. J'arrive pas à me rappeler de la chose. Je vous dis ce que moi, j'ai vécu ce jour-là.
Non, mais parce que je voulais savoir si...
Et je pense que les deux avions étaient déjà rentrés. Parce que un quart d'heure après, donc pendant ce moment-là, on est projeté par terre. Et c'est l'effondrement de la première tour. Et comme je suis à 5 blocs, on a la déflagration est tellement forte qu'on tombe par terre. Et là, on commence la course que vous avez vue sur les images, où je cours pendant 45 minutes, je me blesse, on est renvoyé par terre. Alors, il y a ceux qui montaient vers le nord, il y a ceux qui allaient vers le Brooklyn Bridge, le pont Brooklyn, et ceux qui, malheureusement, sont allés dans le mauvais sens vers les tours. Moi, j'ai monté vers le nord, j'ai couru, je ne sais pas, ça m'a semblé des heures, mais voilà. J'avais perdu mes claquettes, je me souviens de ça, et je courais pieds nus dans le truc. Et
psychologiquement, voilà. On ne sort pas indemne de ce genre d'expérience dans une vie. Est-ce que ça a été le sujet de nuits blanches, de cauchemars, de...
Non, parce que c'est...
De peur ?
Non, parce que je suis dans un pays qui a fait... Je suis dans un pays en guerre. Tout ça me semble étonnamment être dans mon histoire. Je ne sais pas comment vous dire.
En tout cas, ça a été un déclic important pour vous, parce que ça vous conforte dans l'envie d'être journaliste que vous aviez
alors
sûrement avant.
Alors ça, c'est certain. Ouais. Oui, ça, c'est certain. À ce moment-là, je me dis, c'est ça que je veux être. Et d'ailleurs, mes parents, ma mère est là, ils me disent, tu rentres tout de suite à Paris, etc. Je dis, non, on vit un moment historique, je veux rester là-bas. Et je suis restée à New York. Et à ce moment-là, je faisais des cours de journalisme et j'ai appris. On a fait des reportages sur ça. J'apprenais, j'adorais.
Là, on a entendu Lou Reed avec Perfect Day. On ne va pas rapprocher le titre, évidemment, avec ces tristes événements. Mais la place de la musique dans votre vie, vous avez justement grandi en écoutant Le Grand Marcel et Lou Reed.
Oui, et notamment Lou Reed. Moi, c'est Lou Reed ou Bowie. C'est ça, j'ai grandi avec ça. C'est eux qui m'ont fait...
Alors justement, Bowie, on va le retrouver en 2004. Changes, les changements de Bowie en 2004, ce sont vos premiers pas à l'antenne sur la chaîne parlementaire.
Sur Public Sénat.
Pardon. Ça s'appelait pas...
Vous savez, la chaîne est coupée en deux. Vous avez la chaîne parlementaire pour l'Assemblée nationale et vous avez Public Sénat pour le Sénat. Moi, j'étais côté
Désolé.
Public Sénat.
D'accord. Vous étiez aux côtés de Jean-Pierre Elkabbach. C'est une école de...
Elkabbach ? Ouais. Bah oui. Avec aussi
ses
excès. À l'époque, j'étais rien, donc il partageait très facilement. Il me fait monter les gens. Il a du pif. Il faut lui reconnaître ça. Et il m'a, oui, je lui dois beaucoup. Il m'a mis le pied à l'étrier. Et voilà.
On a parlé de votre douce maman qui est présente dans ce studio. On n'a pas parlé d'un politologue important dans votre vie, qui est votre papa. ça a dû forcément jouer aussi, je pense, dans l'éducation et dans l'écho de tout ce qu'il vous a transmis pour vouloir faire ce métier,
oui,
et faire ce que vous faites.
J'avais lu un portrait de vous dans Libé, Nagui, vous disiez que vos parents étaient extrêmement exigeants avec vous, ouais. Et vous vous demandez d'être toujours les premiers, le premier, etc.
Et parce que c'est ce qu'ils racontent.
Hein. Voilà.
Parce si c'est vrai, ils ont dû être déçus.
Non, non.
Salut. Tu respectes rien.
Bah, surtout pas toi.
Hein. C'était notre moment d'émotion avec Nagui.
Ça marche pas. Hein,
ça marche pas. Ils ont tout cassé.
Sur moi, voilà. Oui, vous inquiétez pas, mais parlons de votre papa. Oui.
Et donc, papa, évidemment, c'était l'homme le plus exigeant de la Terre. Il nous a éduqué, ma sœur et moi, vraiment avec une dureté dont aujourd'hui, je le remercie.
En 2013, là, vous vous retrouvez sur iTélé et vous écoutez Christophe.
Dans ma veste de soir rose, je déambule morose.
C'est François.
Christophe. Les sublimes paradis perdus. Et c'est bien d'enchaîner d'ailleurs Bowie avec Christophe, tellement il y a une filiation aussi et une proximité dans leur travail. Vous avez animé l'émission Ça se dispute avec Nicolas Domenac et Éric Zemmour. Alors vous dites que ce ne sont pas des imposteurs de la télé, ce sont des vrais idéologues.
Domenac n'est pas un idéologue, Zemmour, oui. Je vais vous faire une confession, c'est la chose que j'ai préféré faire.
Il y a un humaniste militant d'un côté, un idéologue de l'autre,
ouais,
précis.
Ouais, c'est un idéologue réactionnaire, assumé. Je ne vais pas vous présenter Éric Zemmour, je pense que toute la France
le
connaît.
Enfin, bon journaliste.
Zemmour, c'est la chose que j'ai préféré faire de toute ma carrière, animer Ça se dispute.
C'est fou, ça.
Ouais, je trouve que c'était... Parce que c'était... J'allais vous dire, c'était Zemmour avant ses outrances. Mais c'est vrai qu'il n'était encore... Il n'avait pas...
Il n'avait pas franchi la ligne.
Je ne sais pas quelle est la ligne, je ne sais pas quel est le franchissage. Je
une
veux
forme
pas,
de décomplexion dans la parole, quoi.
Disons qu'il était dans... Moi, vous savez, je suis pour la parole à tous. Et notamment quand j'étais à iTélé, je faisais une guerre. Je faisais un débat tous les soirs avec quatre politiques qui commentaient l'actualité. Et je me suis battue avec ma direction pour pouvoir inviter le Front National. Parce qu'ils ne voulaient pas du Front National. Et moi, je disais non, ils font un quart de votants dans les urnes. On doit inviter le Front National. Et j'ai obtenu gain de cause. Donc moi, je ne suis pas pour cacher ces idées réactionnaires-là sous le tapis et faire comme si ça n'existait pas. Moi, je suis pour leur donner la parole et pour les combattre en mettant des gens valables en face.
Donc, vous partez du principe que plus ils parleront, plus on comprendra leur comportement réactionnaire.
Je pars du principe que ça change un petit peu aujourd'hui, mais je pars du principe que en face de ce camp réactionnaire-là, qui règne en maître depuis 5 ou 10 ans, le camp progressiste est faible. Et que le problème, c'est pas la force de Zemmour, c'est la faiblesse du camp progressiste en face.
Mais la force de Zemmour, c'est de dire que c'est le camp d'en face qui est plus fort.
Oui, mais il a tort. Ça, oui, je lui ai toujours dit, qu'il est devenu majoritaire dans les idées aujourd'hui. Donc
Et quand Laurent Ruquier dit, par exemple, qu'il regrette d'une certaine façon d'avoir donné une place de choix à Éric Zemmour dans On n'est pas couché, d'avoir fait d'une certaine façon un peu grossir le monstre et non pas de l'avoir enfanté parce qu'il n'y a pas de paternité à établir entre Éric Zemmour et Laurent Ruquier, vous en pensez quoi?
Je pense qu'il a bien fait de le prendre au moment où il l'a pris. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que...
Non, je ne sais pas.
D'ailleurs, elle était vachement bien l'émission. Vous êtes tous revenus, même si c'était électrique par moment.
Ouais, c'était marrant.
C'était
marrant. Non, c'est marrant. Vite de toute manière, vous le connaissez, quand Ruquier vous appelle. Enfin, je veux dire, tous les gens qui étaient autour de la table doivent quelque chose à Laurent Ruquier, à Catherine Barma. Moi, je leur dois énormément. Donc, quand ils vous appellent pour vous dire « tu viens », je leur dis « je viens d'accoucher, je peux pas ». Non, tu viens. Je viens.
Bah justement, on va parler. Non, on ne va pas en parler, parce que là, on n'a plus le temps, mais je voudrais surtout que l'on parle. Non, c'est vrai, je viens de voir.
La guide totale transparence. On va faire ça. On va pas le faire. Je vais faire pipi. Non, je vais rester.
J'avais prévu.
sens combien de public. Je crois qu'à chaque fois tu te dis,
j'ai prévu de parler des années, on n'est pas couché.
Fatigué le Nagui. Hein. Bientôt le week-end. Allez,
Christophe
courage.
Deloire, comment ça va, Christophe?
Ça va très bien.
Merci de venir à ce micro pour parler de ce. Alors, c'est un dossier spécial et un recueil de photos. Comment on peut présenter cet ouvrage qui est très important pour Reporters sans frontières?
C'est d'abord une collection qui commence à être légendaire. Je crois que c'est pas faire de l'autopromo que de le dire. Les plus grands photographes ont donné leurs photos. C'est trois fois par an. Mais ce qui est formidable, c'est que même ceux qui le présentent à la télé en permanence pensent que c'est une seule fois par an.
Ah bah oui,
ils lui mettent beaucoup de cœur.
Que chaque fois je le présente et chaque fois je me dis c'est qu'une fois.
Et on t'en voit que un sur trois en fait. C'est pour ça.
Peut-être.
Mais c'est important qu'il y en ait trois par an parce que c'est donc une collection d'albums photos avec les plus grands photographes du monde qui ont offert leurs photos. Dans les derniers, il y avait Salgado. Alors, il y a des photographes morts qui offrent leurs photos aussi. C'était le cas de Robert Capa, mais là, c'était ses ayants droit. Et qui permet à Reporters sans frontières de mener des actions partout dans le monde. Parce que c'est une grande chaîne de solidarité, en fait, cet album. Les photographes offrent leurs photos, le réseau de distribution, la société Prestalis, les kiosquiers, les vendeurs de journaux, partout, font cadeau de cet album. Et ça permet donc à Reporters sans frontières, par exemple, très récemment, on a créé un centre pour les femmes journalistes en Afghanistan. Il y avait, si vous me permettez l'expression, le tout Kaboul à l'inauguration. mais la réalité, c'est que...
L'élite déconnectée de Kaboul.
Mais il y en a aussi, il y en a.
Et, donc Stéphane de Groot.
Kaboul Kitchen.
Gilbert Melki.
Quand on est femme journaliste en Afghanistan, on est journaliste comme les autres et donc on risque d'être attaqué par les talibans à ce titre. Il y avait un an après Charlie Hebdo, et pardonnez-moi, dans une émission humoristique, je parle de choses un peu sinistres.
Non, mais c'est on parle de
le
tout.
Rôle que je
absolument.
On sait, mais
absolument. Vous êtes libre, il n'y a pas de censure.
Une chaîne de télévision, Tolo News, a fait l'objet d'un attentat où il y a eu 9 collaborateurs de la télévision qui ont été tués dans cet attentat. Et puis évidemment, les femmes sont encore plus ciblées. Donc voilà l'exemple d'action que Reporters sans frontières mène concrètement sur le terrain. RSF est plutôt connu par ses campagnes de communication, c'est normal, mais ça sert à faire des choses très concrètes derrière.
Exactement, parce que il y a tout à l'heure, je parlais du classement mondial de la liberté de la presse en 2017, qui sortit officiellement le 26 avril, c'est ça, c'est hier, c'est incroyable.
Le temps passe, Nagui, c'est incroyable. C'est fou, ça.
Mais pas assez, parce que j'ai hâte qu'on soit le week-end. Et donc c'est la Norvège qui arrive en tête de ce classement, et la France...
Pendant 6 ans, ça avait été la Finlande. Mais il se trouve que qui est une espèce de modèle quand même pour la liberté de la presse. Mais le Premier ministre a passé des coups de fil très pressants et exercé des pressions sur l'audiovisuel public, sur une affaire où il était mis en cause et dont il ne voulait pas que l'audiovisuel parle. Ce qui fait que la Finlande est tombée troisième.
Et la France est en 39e position.
Pas mal.
Alors, il y a toujours. Non, c'est là où on voit qu'il y a toujours deux manières de présenter une information. Mmh. On peut dire la France n'est que 39e. On peut dire aussi elle était 45e et elle a gagné plusieurs places. Donc ça va. C'est plutôt positif.
Non, alors elle a gagné des places par un effet mécanique. Je vais pas entrer dans le.
Il y a eu des pays en moins qui sont sortis.
Non, mais il y a un effet. L'effet de la tragédie de Charlie Hebdo n'existe plus dans ce classement, mais. La situation, parce qu'en fait, pour chaque pays, on calcule un indice, et la situation est la pire depuis 2013. Il y a un accroissement des conflits d'intérêts, de concentration verticale avec des groupes qui ont d'autres intérêts.
Alors, comment il fait sur le classement. Justement, expliquez-nous comment il fait ce classement.
Le classement, en fait, il est fait parce que Reporters sans frontières a des correspondants dans 130 pays, que nous avons un questionnaire en ligne que nous diffusons en 20 langues pour aller vraiment chercher des informations partout auprès de spécialistes de ces questions qui peuvent être des journalistes, des universitaires, enfin, qui peuvent avoir toutes sortes de fonctions que nous sélectionnons pour chacun des pays et nous agrégeons des résultats sur 7 grands champs. Qui vont du pluralisme à l'indépendance des médias, aux exactions, aux violences qui sont commises contre les journalistes.
Parce qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de journalistes en prison.
Il y en a près de 300 au moment où on parle. Ce qui est fascinant, c'est que
il y a de plus en plus parce qu'ils sont journalistes. C'est le seul motif.
Parce qu'ils sont journalistes, voilà, parce que évidemment des journalistes qui ont parfaitement répréhensibles, on les comptabilise pas. On n'est pas du tout une organisation corporatiste. Mais ne serait-ce qu'en Turquie, après le putsch, 150 journalistes ont été placés en détention simplement parce qu'ils déplaisaient au pouvoir. Il y a ce journal Cumhuriyet, qui veut dire la République.
Ils sont pas derniers. C'est la Corée du Nord qui est en dernière position.
Oui, qui remplace l'Érythrée. L'Érythrée, c'est un tout petit pays dans la Corne de l'Afrique, où en 2001, juste après le 11 septembre, le président, qui était le père de l'indépendance, a subitement placé tous les journalistes dans des containers, dans des camps de concentration. Et là, la Corée du Nord est passée dernière. Bon, c'est un pays où
C'est une dictature.
Il est même impossible de comptabiliser s'il y a des journalistes en prison, parce qu'il vient assez peu à l'esprit des citoyens là-bas de devenir journaliste. Mais c'est un pays où le simple fait d'écouter une radio étrangère peut vous envoyer en camp de concentration.
Ce qui est étonnant dans ce classement, c'est que les États-Unis sont moins bien classés que nous. La liberté de la presse depuis Trump est
non, menacée, alors déjà avant, ça, pour être tout à fait honnête, ça avait commencé sous Obama. Sous Obama, il y a une vraie traque aux sources des journalistes, aux lanceurs d'alerte et plus largement des sources, avec même un célèbre journaliste du New York Times qui avait été condamné à de la prison pour des révélations sur la CIA dans un livre fait il y a une dizaine d'années. Bon, finalement, il n'ira pas en prison. Sous Trump, évidemment, ça s'aggrave. Il y a une violence... mais on peut rapprocher ça d'une certaine manière aussi de la campagne électorale pour la présidentielle en France. C'est-à-dire que... On peut estimer qu'il y a une forme de critique journalistique légitime, mais ce qui se passe dans les campagnes, là, ça va tout à fait au-delà de la critique des pratiques journalistiques légitimes. C'est une virulence verbale qui même devient une violence extrêmement forte. Enfin, il y a eu l'autre soir, vous parliez dimanche soir, des noms d'oiseaux quand même, des insultes qui sont terrifiantes et qui débouchent sur des violences concrètes.
Entre politiques, pas
vis-à-vis des journalistes. Dans un ou deux QG, on a quand même entendu...
Ah oui, pardon. Non, je pensais que j'étais sur plateau. Oui,
la presse,
c'est ça.
C'est des choses qui débouchent ensuite sur une vraie violence dans les meetings.
Un comportement sodomite vis-à-vis de la presse dans le camp fioniste, si ma mémoire est bonne. C'était ça. C'était ça.
Donner le contexte. Fioniste.
Bref.
Sodomite.
Fion.
Pas de surprise.
On joue à pyramide ou quoi là? C'est en deux. C'est ça, il faut trouver un mot. C'est Léa. J'essaie de remplacer pyramide et le barré. Tout à l'heure, je rate.
Vous êtes prête, Léa?
Donc finissez, pardon, je vous ai interrompu.
Non, donc, ça débouche sur une violence physique parfois. Et puis surtout, ce qu'il y a derrière, ce qui est très curieux, c'est qu'au nom d'une volonté d'élargir le pluralisme, ce qui est l'un des arguments de certains responsables politiques, au fond, ils s'emploient à le réduire. Et certains d'entre eux, on voit bien, rêveraient que le champ médiatique, ce soit simplement leur propre chaîne YouTube, sans la moindre enquête, le moindre reportage, la moindre contestation. Et le pluralisme, c'est pas l'agrégation de chaînes de communication ou de propagande.
Est-ce que la liberté de la presse est en danger en France ?
Mais on n'est pas... en France, on peut faire son travail. Il y a des problèmes sérieux d'indépendance dans certains médias, mais les journalistes ne sont pas tous des petits soldats. Donc, il faut avoir une pensée un tout petit peu complexe là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Les choses peuvent être améliorées, c'est ce qu'on s'emploie à essayer de faire.
Et elles peuvent s'aggraver aussi.
Et elles peuvent évidemment s'aggraver.
Il
faut être un peu volontariste. Et nous, on a porté des recommandations auprès des candidats. On est allé voir les entourages de tous les candidats pour porter nos demandes, parce qu'il y a des lois doivent être adoptées pour favoriser la liberté et l'indépendance des médias.
Et Audrey Pulvar
qui signe
la pétition contre le camp du Front National et qui est donc sanctionnée pour un mois.
Suspendue
pendant un mois, je crois. La
je ne sais pas combien de temps elle est suspendue.
Elle est suspendue en tout cas, de CNews.
Qu'est-ce que vous pensez de ça?
J'ai pas d'avis particulier, j'ai pas regardé d'assez près pour être honnête. Je pense que c'est important quand on est journaliste, d'abord aujourd'hui de défendre la liberté, l'indépendance et une bonne partie des journalistes dits télé l'ont fait lorsque Bolloré, de manière très claire, a porté atteinte à l'indépendance des journalistes de Canal+, dits télé, et que certains ne l'ont pas fait, et c'était dommage.
Là, le comportement de Pulvar, c'est d'adhérer à
une pétition en tant qu'individu, et le problème, c'est qu'on est individu et journaliste à la fois. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? CNews sanctionne, suspend en tout cas. Donc, on fait quoi?
Non, ben là, ce qu'on peut très clairement craindre, c'est qu'il y ait un biais politique et que ce soit une manière de plus d'essayer d'orienter la ligne éditoriale de CNews. Il y a déjà eu des moyens très forts qui ont été employés. Je crois aussi qu'il est important que pour retrouver la confiance la plus grande du public, et c'est ce que Léa a expliqué tout à l'heure, le rôle des journalistes, c'est aussi d'essayer de faire le plus possible abstraction d'eux-mêmes pour perdre tout le monde.
Comment aider Reporters sans frontières? En achetant déjà ce livre, ou il y a d'autres solutions?
En signant nos pétitions. En achetant ce livre, ça, c'est vraiment un moyen de faire des choses partout. Et puis, la question de la liberté de la presse, c'est pas une question corporative, c'est pas seulement la question des journalistes.
Non, c'est essentiel pour nos vies et nos enfants dont nous parlons tout à l'heure. 9,90€, c'est un bel ouvrage.
Ah, quand même.
Et c'est pas cher. Et à propos de Yann Arthus Bertrand, il sera notre invité la semaine prochaine pour parler de sa fondation, mais nous reparlerons également, évidemment, de ses sublimes photos. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu à ce micro. Léa Salamé, notre invitée, et c'est le cas jusqu'à 12h30. On aura l'occasion encore de parler avec elle et avec Daniel Morin de cette liberté de la presse.
Daniel, tout à l'heure.
C'est la
bande originale avec Leïla Kadoboudadi,
Daniel
Morin, Albert Aldou, Pierre Mauguise et notre invité Léa Salamé. Léa Salamé, parce que nous avons parlé de votre travail ici sur France Inter, des soirées électorales et notamment celle du deuxième tour. Le prochain rendez-vous, en tout cas, ça sera le 7 mai, j'imagine, pareil,
même dispositif
à 18h30 et à 20h la chair de poule pour le résultat.
Ben oui, on est content, on est passé devant TF1. Donc
c'était alors.
Très
objectivement, je dis pas ça.
Après, il y a les communiqués, la guerre des communiqués, et à un moment, je vois, on a égalité, alors qu'on était 1 million de téléspectateurs devant TF1, donc je me permets de le corriger.
Tu as totalement raison, et en plus, c'est pas uniquement parce que j'ai le sentiment aussi d'être de la famille France 2, mais j'ai trouvé le.
Vous possédez France 2.
Le dispositif, deux, les interventions, et Leïla aussi faisait partie de ce dispositif, et Nathalie Saint-Cric, et Laurent Delahousse, et David Pujadas, et évidemment vous.
Je trouvais Marie-Sophie Lacaro.
Voilà, tout était extrêmement fluide. Il n'y avait pas du clinquant pour le clinquant. J'ai toujours, moi, un peu peur de ce système-là de réalité virtuelle qui demande des heures de répétition pour quelques secondes à l'antenne. Ça, c'est pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe. Mais c'était fait avec intelligence, avec efficacité, et surtout, il n'y avait pas que la forme, il y avait le fond aussi. Non, c'est vraiment une soirée réussie, et quand les téléspectateurs vous font confiance sur les résultats, sur les propos tenus et sur la manière de diriger les débats, c'est évidemment une reconnaissance dont vous pouvez vous enorgueillir tous autant que vous êtes.
On a beaucoup bossé, et puis par ailleurs, moi c'est un plaisir de bosser avec Pujadas aussi, parce qu'on a un binôme qui fonctionne bien. C'est pas toujours facile, les duos.
Alors,
en télévision.
Tout va
très
vite. On
peut féliciter Airprod qui a produit cette soirée.
Pas du tout.
Pas du tout.
Tout est allé très vite dans votre carrière depuis que vous êtes arrivé à France Inter. On a parlé évidemment de ce qui s'était passé précédemment. France 2 aussi avec les émissions, soit l'émission politique d'ailleurs pour ce rendez-vous régulier, les soirées électorales. Stupéfiant était la nouveauté pour vous de cette année. On a le sentiment que tous les ans, il y a toujours quelque chose de nouveau. Mmh. Est-ce que vous avez déjà des envies personnelles, en tout cas? Non, mais même pas forcément pour la saison prochaine, mais des envies dans votre carrière. Vous vous dites, je ne vais pas faire ça toute ma vie, je ne vais pas faire l'interview de 7h50 trop longtemps. Là, c'était intéressant, peut-être passionnant, particulièrement pour une année électorale.
Ouais. La chanson, Léa, un album.
Le musical.
Non, il peut y avoir des documentaires, il peut y avoir des envies, parce qu'on le voit dans Stupéfiant, vous êtes beaucoup sur le terrain. Peut-être que c'est quelque chose que vous aimez aussi d'aller.
Je sais pas encore. Honnêtement, je sais pas. Vous avez raison de dire que c'est allé très vite. Vous avez raison de dire que chaque année il y avait un nouveau challenge, et que peut-être là, j'aimerais bien un peu calmer les choses. Vous voyez, au moins une année. Je viens d'être maman, donc j'aimerais bien aussi un tout petit peu adoucir les choses. On verra.
Et l'équilibre politique.
Vous en êtes capable? Est-ce que vous en êtes capable? C'est la vraie question. Elle a raison. Elle me connaît bien. Là,
je suis. Surtout, elle se renseigne parce qu'il y a une place à prendre. C'est vous qui faites du gamin.
Non, ça va pas jusque là. Mais je crois que je disais au début. je crois que ce tempérament un peu excessif, je peux le comprendre aussi. Et puis à un moment aussi, tout simplement, quand les choses marchent bien, qu'on est dans une forme d'ascension, on a aussi envie. C'est difficile de lâcher.
Oui, mais il nous appartient aussi de
gérer.
De gérer.
Bien sûr, mais c'est la question que je pose.
Parce que sinon, on passe à côté de plein de choses aussi. Donc, il m'appartient à moi de régenter ma nature excessive. Vous savez, la vie, c'est des ronds et des déliés. Il y a des moments aussi, il faut que ce soit un peu. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que là, je deviens chiante, en fait.
Non, mais je n'osais pas le dire. Mais...
Est-ce qu'on a le temps?
Elle va parler de ses rêves. Elle est là, Laurence Black, la patronne d'Inter est derrière.
Elle s'intéresse à la future grille des programmes, elle se demande si on est en train de la faire, la grille, là, en ce moment. C'est ce qu'elle m'a dit.
Qu'est-ce
dans le casque.
Mais vous ne
faites pas dans la grille. Enfin, j'ai mis très mal ça.
C'est quoi les rêves?
Voilà,
vous
exactement.
Étiez en train de commencer.
Non, les rêves, c'est... Moi, je rêve un jour d'animer un grand débat de société. C'est ça qui me fait le plus triper, honnêtement. Plus que des rêves de...
d'autres choses.
Donc une émission régulière de rendez-vous, de débat de société.
Oui, ça c'est un truc qui me ferait rêver, voilà. Que j'ai pas, enfin que j'ai fait en chaîne d'info, moins sur.
Ce que vous expliquiez tout à l'heure sur le meilleur moment.
Moi j'aime bien ça. C'est mon plaisir, c'est d'avoir 3 ou 4 personnes autour de la table, d'arbitrer les choses, etc. Donc à terme, ce sera ça, mais bon.
Est-ce que ça vous laisse du temps pour avoir votre vie avec sans rentrer dans votre vie privée, je vous demande pas ce qui s'y passe, mais est-ce que vous avez ce temps-là, pour lire, pour aller à des concerts, pour vous amuser avec des copines, pour
cette année électorale, entre le matin sur France Inter, l'émission politique stupéfiant, ma grossesse, j'ai eu le temps de rien cette année. J'ai eu la chance de faire 2 ans l'émission de Laurent Ruquier où j'étais toutes les semaines au théâtre, au concert, etc. Mm-hmm.
Je confirme parce qu'on s'y croisait en plus régulièrement.
Le vrai plaisir de l'émission de Ruquier, et ça s'est arrêté brutalement et nettement parce que cette année c'est vraiment
pas possible.
Que travailler.
Ouais. Léa Salamé, donc notre invitée, vous la retrouvez tous les matins à 7h50 pour notre bonheur et pour le bien de ce pays dans des interviews passionnantes. Mais moi je tiens à dire parce que ça fait du bien.
Les nagues est très transparent. Tout ce qui passe par la tête, c'est transparent.
Il n'y a rien que ça. L'univers.
S'il a envie de manger, il va le dire. Hein, vous savez.
Et une heure avant, malheureusement, sur cette antenne, il y a Daniel Morin tous les matins, mais il revient aussi à midi 12. Staccanoviste.
Complètement. Alors, c'est ce qu'on peut appeler une triste nouvelle.
Quoi ?
Avant-hier, la police a interpellé au volant de sa voiture un homme qui conduisait malgré un permis de conduire annulé en 2011. Bon, je sais, vous me direz, ouais, ok, ça arrive tous les jours, ce genre de truc. Ta news est pourrie, on s'en fout. Sauf que là, la personne arrêtée, c'est Julien Lepers.
Non.
Juju Lepers. Merde, quoi. Pour être honnête avec vous, j'ai peur. Oui, j'ai peur que ce soit le début de la fin pour Julien. Il se remet pas de son éviction de France Télé. Il est en train de craquer, Julien, voilà tout. Et j'ai bien peur que ça n'en reste pas là. France Inter, flash spécial, on vient de l'apprendre. Julien Lepers est en garde à vue. L'ancien animateur de France 3 a été arrêté dans un bar alors que devant un groupe de curieux, après avoir sniffé 4 rails de coke consécutifs, il s'était crié « Oui, 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 4 heures Smith, bravo, Julien !» Je sais, c'est moche, un homme qui sombre. Ça me rappelle la fois où Nagui était en pleine dépression. Taisez-vous, je sais, mais c'est gênant, mais il faut que je le dise. Il était en pleine dépression et il avait été chopé par la police en train de conduire bourré sa Lamborghini électrique qui monte de 0 à 200 en appuyant sur un interrupteur. Là encore, lui aussi était possédé par ses gimmicks de télévision. Le dialogue entre le flic et lui était surréaliste et triste à la fois.
Bonjour monsieur, police nationale.
Pour la police, faites du bruit.
Ne faites pas de malin avec moi monsieur, donnez-moi les papiers du véhicule et votre permis de conduire.
Vous bloquez ces paroles?
Comment ça je bloque ces paroles? Oh, vous m'avez l'air dans un drôle d'état. Coupez le moteur et descendez immédiatement de la voiture.
Allez, ciao, ciao, ciao. Puis il est parti en faisant crisser les pneus de sa bagnole avant que le flic ne l'arrête en tirant dans ses pneus à la mitraillette. Ben c'est ça, les gens de télé, c'est des gens qui ont aussi des fragilités. Tenez, Léa. Vous, femme de télé à notoriété époustouflante, eh bien vous aussi, vous êtes fragile. Vous n'êtes pas cette journaliste simplement regard implacable et au verbe ciselé. Non, non, vous avez vous aussi vos moments de fragilité, de fatigue, de faiblesse. Alors vous, ça se traduit différemment. Hein. Vous, Léa, vous engueulez les gens. Oui, vous êtes comme ça. La dernière fois, c'était dimanche soir, l'antenne, en pleine émission, d'après premier tour des présidentielles, vous avez engueulé le pauvre Philippe Poutou.
On va s'arrêter, non? Terminé, mais peut-être sans mettre en accusation, en utilisant des mots, les tocards, tout ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire?
C'est le pauvre gars. Il s'est fait laminer par Léa, il était énervé. Heureusement que c'était vers la fin, hein, sinon ça sentait le fait divers. France Inter, flash spécial, on vient de l'apprendre pendant la spéciale premier tour dimanche soir sur France 2. Léa Salamé a littéralement harcelé Philippe Poutou. Entre les différents duplex et autres magnétos, elle s'en est pris au candidat MPA, lui disant notamment, je cite, « Non mais vous croyez où, Poutou? Vous auriez pu mettre une veste et une cravate, espèce de rustre. » Et enfin, alors qu'un sujet passait à l'antenne, Léa Salamé a surpris Philippe Poutou un doigt dans le nez. Ça l'a rendu dingue. Elle a hurlé « Non mais ça va pas, Poutou, tu peux pas prendre un mouchoir, espèce de cro-magnon. Ça suffit, tu te lèves, tu vas au coin. Allez, au coin, baisse les yeux quand je te parle. Non mais, quoi, qu'est-ce qu'il y a, Pujadas? Il y a un problème? T'as perdu ton coussin ?» En même temps, toute cette tension, c'est clair, ça rend nerveux. Je comprends, Léa, faut tout évacuer. À demain.
Merci, Daniel Morin. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Vous étiez passé d'ailleurs dans les coulisses, dans les loges, saluer chaque candidat lors de l'émission qui réunissait les 11 candidats.
Aucun.
Aucun.
Aucun, non. On ne salue pas avant.
Non, mais
c'est révélateur, on ne salue pas avant.
Révélateur, on ne salue pas avant.
Non, on ne salue pas avant. Pour dire bonjour, merci d'être là,
enfin je sais pas, pour les accueillir.
Non, c'est le job du rédacteur en chef. Franchement, jusqu'au bout, on travaillait nos questions avec David. Jusqu'à la dernière seconde, on est descendu en flèche. Non, je ne suis pas forcément favorable.
Il y a une question grave qui a circulé sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de questions graves qui circulent sur Internet. Ils ont tous bu dans le même verre d'eau?
C'est vrai qu'ils ont posé cette question.
Oui, parce que comme l'un finissait ils en buvant une gorgée et se levait et que l'autre venait s'asseoir, tout le monde a dit « mais ils boivent dans le même verre ».
Vous voyez ce qu'on retient de vos interventions à la télé? Le verre d'eau qui est à 10 mètres de vous, c'est consternant.
Faudra interviewer le verre d'eau. Nagui est capable, il le fait parler.
Je trouve ça très... En termes d'hygiène, c'est très important.
Mais elle est géniale, cette
Léa,
question.
Je vous demande de répondre à cette question.
Je ne sais pas, c'est une vraie question. Je vais enquêter, je vais mener l'enquête pour savoir s'ils ont changé le verre d'eau ou pas. À mon avis, ils ont quand même changé les verres.
Il y avait quelqu'un qui a surgé sur le plateau.
Il y a quelqu'un qui nous amenait les verres d'eau et tout ça.
Il y avait un jingle super
c'est
court.
C'est très court, oui.
Super court.
Non, donc ils ont bu dans le même verre d'eau, je crois.
C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse.
C'est dégueulasse. Voici le brouillon de culture de Léa Cadeau, vous le dites.
Léa Salamé, je vous sors de la promo qui n'est pas vraiment une promo. Voilà, un petit bol d'air. C'est notre brouillon de culture. Histoire d'apprendre à mieux vous connaître, on commence par un premier son.
Pendant 9 ans, je pouvais rien dire. Je pouvais pas venir chez vous.
Eh oui, je sais.
Et j'avais mon mur et l'avantage. Pardon ?
C'était frustrant ?
Ah, très.
Ouais.
Je voulais vous rencontrer plus souvent.
Ah, bah ça, on le sait. Canard enchaîné l'a révélé cette semaine.
Oui.
Il paraît que vous avez annulé. Ah, bah non, je veux savoir ce qui s'est passé. Le Canard enchaîné dit que vous avez annulé l'entretien sur France Inter parce que c'était pas Léa Salamé.
Mais j'allais sur France Inter uniquement pour vous voir.
Mais vous avez tort parce que d'abord, France Inter, c'est la première matinale de France. Ça me permet de le dire. Allez, je fais de la.
En plus, elle m'a dit en coulisses qu'elle pouvait pas vous blairer.
On a beaucoup parlé des politiques qui avaient tiré à boulet rouge sur la presse ces derniers temps. Mais on a moins parlé de certains politiques qui sont un peu plus lourds. Là, c'est Jean-Louis Debré dans On n'est pas couché.
J'avais oublié.
Qui vous fait une sorte de déclaration d'amour un peu gênante.
Oui, c'était un peu gênant.
Qu'est-ce que vous comprenez à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est le naufrage d'un homme? C'est l'envie
le
de
naufrage,
faire
un nom
homme.
Elle le crucifie.
Tu as envie de rencontrer Léa, t'es pas en train de.
Il est au fond du
trou. C'est un homme qui a bon goût.
Voilà. Vas-y, je te répondrai après.
On l'imagine titubant dans les
coups. Je vais pas me mettre à défendre Debré, il a pas besoin de ça. Mais il est pas vulgaire dans ce qu'il fait.
Mais surtout, ça s'est bien passé, c'est quand même le père de l'enfant de Léa. On peut le dire, ça s'est très bien passé.
Non, pardon, je le trouve un petit peu lourd. Et puis je trouve que politiquement, si tant est qu'il ait des envies encore politiques, c'est quand même une façon assez déplorable de se présenter au public. Enfin, je dis ça. Je suis pas sa directrice de communication.
C'était hyper lourdingue, mais de là à l'annoncer son naufrage.
Mais d'ailleurs, il fait quoi, ce Jean-Louis Debré, maintenant? Il fait de la télévision.
Oh, il a juste été président de l'Assemblée nationale.
Oui, non, mais ça, c'est avant, Albert. Mais maintenant, il fait quoi? Il fait de la télévision. C'est te dire que le naufrage était quand même pas très loin.
Il est quand même tombé un petit peu bas.
Et la télé, comme là, il a cadeau. Le naufrage.
Absolument. Et qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est aussi une tentative de déstabilisation.
On
sourit. Vous savez, le meilleur truc, quand on est mal à l'aise, on sourit.
Et justement, dans toutes ces années passées, on n'est pas couché, toutes ces interviews, le meilleur souvenir et le pire souvenir, Léa?
Oh là là, je ne sais jamais répondre à ces questions-là.
Le
meilleur souvenir, c'est un peu con ce que je veux vous dire, mais c'est Ruquier. C'est vraiment ma rencontre avec lui. Parce que ça a été 2 ans, pour le coup, de coups de foudre mutuels, et on continue à s'écrire. Il a commenté mes prestations dimanche soir. C'est un type que j'aime vraiment beaucoup. Je peux pas vous dire, c'est comme
non,
ça.
C'est
les affinités électives.
On peut rajouter une chose. C'est un homme de parole.
Ouais.
C'est un homme qui.
C'est un homme de parole. Ouais. C'est un homme qui, quand il fait ses choix, il les assume. Voyez, je trouve qu'il est voilà. Donc pour moi, mes 2 ans, le plus beau souvenir, c'est ça.
Le pire le pire pour vous ou le pire.
Serge Calfon, la réalisation.
Ou en tant que journaliste dans la façon d'interviewer quelqu'un, ça peut être aussi ça.
Mon naufrage, vous voulez dire.
C'était de venir ici.
Oui. Mon naufrage, c'était face à Michel Onfray. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission, c'était il y a 1 an et demi. On a été nuls, Yann, moi, que c'est moi. Face à Onfray, je peux pas vous dire, on était mauvais.
Ça tient à quoi?
Ça tient à rien, ça tient à un moment d'ultra polémique où on l'a accusé de faire le jeu du Front National. Ouais. Et je trouve qu'on avait
été. Qu'il avait vrillé un peu.
Ce qui est pas totalement faux, mais la manière dont on l'a pris en frontal, un peu brutalement.
C'était
comme
beaucoup
ça,
trop brutal, il méritait pas ça.
C'était. Il méritait d'être titillé. D'ailleurs, on en a reparlé avec Onfray parce que je l'ai invité sur Stupéfiant. Moi, je pensais qu'il m'en voulait. En fait, pas du tout. Pour le coup, j'ai bien mieux réussi cette interview-là que l'interview chez Ruquier. Cette émission, c'était le naufrage de deux chroniqueurs. Donc, j'étais un des deux. Et on était très mauvais. Et il a été très bon. Et ensuite, pendant une semaine, j'avais l'impression que la France entière parlait de ça en disant qu'est-ce qu'ils sont nuls. Et ils avaient raison, parce qu'ils étaient vraiment nuls. Et voilà, très mauvais souvenir.
C'est quoi, pardon, la définition d'une bonne interview et d'une mauvaise? Parce que vous dites, ça c'était une bonne, écoutez, là, c'est une mauvaise, ça veut dire quoi?
On était à côté de la plaque, parce qu'il y avait des choses à dire, parce qu'on ferait des troubles sur beaucoup de choses, sur beaucoup de ses réponses, etc. Il n'est pas clair, etc. Mais on l'a pris, on l'a pris en frontal, comme si on était les justiciers du ciel.
Il n'y avait pas de répartition de rôle à ce moment-là. On ne se dit pas juste avant une interview, par exemple, tiens, on a, Welbeck qui vient, on a Finkielkraut qui vient.
En général, en plus, on s'entend très bien avec moi. Sur ça, c'était, je ne peux pas vous dire, c'est comme ça, on réussit parfois, on rate.
Là, ça, c'est le truc, c'est quand tu prends de la coke, là, tu vas direct.
J'avais abusé.
Et je finis par un cadeau pour vous, ce sont les mots piégés de la politique de Philippe Blanchet aux éditions textuelles, petite encyclopédie critique. Alors j'aurais dû prévoir un autre cadeau, un truc plus dans l'évasion parce que vous avez un peu la tête dedans, mais je l'ai trouvé vraiment bien au sens où aujourd'hui les mots sont un peu galvaudés parfois, les mots sont vidés de leur sens. Et là c'est une sorte de petit lexique qui reprend des termes qu'on entend souvent dans la bouche des politiques et dans la bouche aussi des journalistes. Il peut s'agir de laïcité, de république, de radicalisation, de communautarisme. Et Philippe Blanchet, en fait, est professeur de sociolinguistique. Et je trouve que dans certaines périodes comme la nôtre, il est important de montrer que le pouvoir la langue est un pouvoir important et que les mots, les vocables ont un sens. Je sais que vous êtes très sensible à ça, Léa, mais je me dis qu'une lecture de plus ne fera pas de mal.
Merci beaucoup, j'apprécie. Voilà. C'est un bon choix, merci.
Puisque tout à l'heure, nous avons parlé de Reporters sans frontières et de la liberté de la presse, est-ce que vous avez le sentiment d'être totalement libre de dire, de faire ce que vous voulez et de vous exprimer que ce soit à France Inter ou à France 2.
Oui, franchement, oui. Après, il y a une autocensure personnelle qu'on fait où c'est à nous de doser.
C'est peut-être celle-là la plus grave dans la vie.
C'est dans mon cas, oui. mais non, bien sûr qu'on. Moi, en tout cas, j'ai cette chance-là à France Inter et à France 2. Je ne suis absolument pas censuré.
On voit bien, en tout cas, Daniel Morin, que.
Qu'est-ce qu'on voit?
Plus que jamais, d'abord journaliste, tout à l'heure on l'a dit, c'est un métier à risque avec malheureusement ces 300 journalistes encore en prison, et qu'il faut se battre pour cette liberté de la presse. Il en va de sa démocratie, de notre avenir.
Oh, c'est vrai! Encore une fois, c'est brillant! On touche du doigt le génie, monsieur Guy! Quelle chance de vous avoir,
monsieur Guy!
Oui, j'applaudis. Qui? Oh, je ne sais pas. Peut-être moi. Oui, sûrement pas vous, hein, monsieur Guy. Vu le niveau surtout de nunucherie de votre saillie aussi ridicule que désolante. En même temps, je le reconnais, il n'est pas aisé pour vous de vous intéresser à un métier qui consiste à s'intéresser aux autres. Voilà. Vous ne connaissez pas. Alors moi, quand on parle de journalisme, je dégaine le roi, le dieu de la profession. King of the Castle, Patrick Cohen. Le physique de Georges Clooney, le professionnalisme de Jean-Pierre Pernaut. Oui, je vous rappelle, en 2005, il reçoit le prix Albert Londres juste pour son « Bonjour, il est 7h ». Ouais, quel homme ce mec. Et d'après ce que Patrick me confiait ce matin, tout en sirotant tranquillement son 12e calva post-matinal, avaché dans le canapé Vison Cachemire incrusté diamant de son bureau en marbre, J'avais du mal à voir le risque du métier, à part la cirrhose. Et puis, comme Patrick me l'a brillamment hurlé dans l'oreille avant de s'évanouir dans son vomi, la liberté de la presse, on s'en tape, ce qu'il faut, c'est de la pub pour faire un max de fric. N'avez que vous partagez. Je vais demander ce qu'il en pense à mon ami grand démocrate, ancien militaire. Bonjour Maréchal, vous allez bien?
Affirmatif.
Vous pensez que c'est indispensable, une totale liberté de la presse pour s'assurer une vraie démocratie?
Vous me faites marrer, Morin.
Pourquoi?
Parce que vous êtes un con.
Je vous en prie.
La ferme. La liberté de la presse, la démocratie, c'est comme les droits de l'homme ou la Convention de Genève, c'est des trucs de lopette.
Quand même, la démocratie.
Inutile. Rien vaut une bonne dictature.
La liberté de la presse, son indépendance, sa pluralité.
Mais on s'en fout. On a tout ce qu'il faut avec Radio Courtoisie.
Ah, vous êtes bien coincé là. Radio Courtoisie, c'est vrai, c'est l'argument ultime.
Bon, ben, merci bien, Maréchal. Alors, ouais, voyez, monsieur Guy, un expert a été des plus clairs, hein, tout ce que vous avez dit sur la presse, et nanani. C'était de l'esbrouf, c'était du pipi de chat, mon ami. Une fois encore, désolé, mais vous avez dit...
N'importe quoi. Merci, Daniel.
Et à bientôt. La bande originale. Juste pour le plaisir, et quel plaisir, voici Michel Delpech avec Quand j'étais chanteur. Ah oui, on le prend directement, il n'y a pas d'intro, il n'y a plus rien, directement. Ah d'accord, ok. Oh mais c'est l'intro quand même. Ouais, on lui coupe aussi. On peut l'arrêter.
Je vous ai dit, Léa, tout ce qui lui passe par la tête, ça sort dans la bouche.
Voilà. On remet.
Bah oui, on remet.
J'en profite pour faire un bisou à Pierre-Emmanuel Barré. Voilà, j'ai comme une pause. Voilà.
Il est dans les locaux.
Je l'embrasse aussi.
Il est dans les locaux. Je l'ai sorti. Il est dans les locaux.
Voici donc Quand j'étais chanteur, c'est un choix de Léa Salamé, Michel Delpech.
J'ai mon rhumatisme. Qui devient gênant. Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans. Je fais de la chaise longue et j'ai une babysitter. Je traînais moins la jambe quand j'étais chanteur. J'avais des boots blanches, un gros ceinturon, une chemise ouverte sur un médaillon. C'était mon sourire, mon atout majeur. Je m'éclatais comme une bête. J'étais chanteur. Un soir à Saint-Georges, je faisais la kermesse. Ma femme attendait, planquée dans la Mercedes. Elle s'est fait jeter dans l'Indre par tout mon fan club. J'avais une vie dingue quand j'étais chanteur. Les gens de la police me reconnaissaient. Mes excès de vitesse, je les payais jamais. Toutes mes histoires tangeait sur l'heure. On me pardonnait tous mes écarts quand j'étais chanteur.
En duo, Michel Delpech avec Alain Souchon, Quand j'étais chanteur. La programmatrice de l'émission était Léa Salamé. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bah, désolé pour les fans de l'élégante et classieuse Léa Salamé qui ont été quelque peu étonnés par sa blague, le Fiono Sodomite. Mais il faut dire que c'était une demande. Hein. L'impératrice de l'interview aujourd'hui, on lui a demandé de s'appeler Léa Pierre-Emmanuel Salamé. Alors, désolé pour les auditeurs enfin qui ont découvert ce matin avec grande tristesse et regret que la direction de France Inter n'avait fait passer aucun essai à Nagui avant de l'embaucher. Ça s'entend.
Quel enflure.
Oui, on m'appelle.
En plus, c'était là. En plus, c'était là. Parce que c'est toi qui décide évidemment de qui anime cette tranche, vu évidemment le nombre d'animateurs que tu as fait.
Désolé.
Exactement. Demain, c'est Raphaël Laroche qui sera notre invité. Merci mille fois, Léa, d'avoir
merci
été notre
invité.
Et encore bravo et merci pour tout le bien que vous nous faites. À suivre les carnets de campagne.
Je vous ai dit, Léa.
Oui, bonjour, Nagui. Bonjour tout le monde.
Bonjour, Philippe Bertrand.
J'ai eu un examen aussi avant d'entrer, mais c'était à l'époque, ça s'appelait la médecine du travail.
Et t'ont laissé rentrer.
Alors, donc, un message pour Pierre-Emmanuel aussi, mon grand lapin. T'es barré, ça on le sait, mais tu peux pas te barrer. Avec qui je vais parler de la cantine?
Exact.
Hein,
exact.
Et qui va critiquer tes blagues?
Et en plus.
En plus.
Salopard, c'est vrai, j'avais oublié ça. Non, casse-toi.
On est d'accord. Non, on est d'accord ce que t'as dit avant.
Bisous.
Allez, je vous embrasse. À demain.
C'est fini.